Chapitre 33. Une maison grise. Vinyl Heaven, Maine. Mercredi 28 juillet 2010. Sur le pont, Gal, Wood et moi observions l'île de Vinyl Heaven qui se rapprochait. Lorraine et le chef Lansdane étaient présents également, ainsi que le chef Mitchell que Gal, Wood avait eu l'élégance d'associer à l'opération. Il était midi. Nous nous apprêtions à arrêter dans cette maison grise entourée d'érables rouges le docteur Benjamin Bradbird. C'était lui, l'homme d'âge mûr, divorcé, qui conduisait une voiture bleue, une Chrysler Sebring achetée en mars 1998 et qu'il possédait toujours, et qui avait acquis cette résidence secondaire au début des années 1990. Nous avions aussi découvert que sa mère, Rosemary Bradbird, était une ancienne reine de beauté et qu'elle avait fondé jadis le concours Miss Nouvelle-Angleterre, dont il était lui-même membre du comité d'organisation. Depuis la veille, depuis que nous avions compris que Benjamin Bradbird était l'amant d'Eleanor que nous cherchions désespérément, Gal, Wood et moi brûlions de l'interroger. Nous aurions souhaité l'arrêter sur le moment, mais la situation était délicate. Gal, Wood n'avait légalement pas d'autorité pour agir dans le Maine. Nous nous étions alors discrètement faufilés hors de la propriété et, faute de réseau téléphonique, nous étions rendus à Vinyl Heaven, la petite ville qui donnait son nom à l'île, d'où le sergent avait appelé Lansdane depuis une cabine. Ce dernier n'avait pas très bien accueilli notre initiative.
Vous êtes sur une île du Maine, hors de votre juridiction, et vous avez pénétré sur une propriété privée sans mandat. Bravo! Vous savez que vous pourriez planter toute votre enquête pour vice de procédure. Dépêchez-vous de revenir dans le New Hampshire. Je vous attends dans mon bureau demain à la première heure. Vous me ferez part des soupçons qui pèsent sur ce Benjamin Bradbird. J'alerterai immédiatement les autorités locales et je viendrai personnellement avec vous pour coffrer ce type.
Nous avions obéi. Nous avions quitté l'île par le dernier ferry et nous étions retournés dans le New Hampshire. Perry m'avait proposé de dormir chez lui à Concord, jugeant que c'était plus simple. J'avais accepté. Je ne savais pas si je voulais retourner à Mount Pleasant. J'avais retrouvé la maison des Gal, Wood et la chambre de Marcus au sous-sol. J'étais déjà couché lorsque je reçus un appel de Lorraine.
« Perry vient de me téléphoner, »
me dit-elle.
« Vous avez donc trouvé le meurtrier d'Alaska ?»«
On le saura demain. » »«
Perry m'a proposé de vous retrouver au quartier général de la police d'État demain matin. J'espère que ça ne te dérange pas. »«
C'est ton enquête autant que la mienne. Pourquoi ta présence me dérangerait ?»
Depuis ce concert où tu es allé soi-disant seul, j'ai l'impression que quelque chose s'est cassé entre nous.
Lorraine avait raison, mais je ne sus que répondre. Nous avions finalement raccroché. 12 heures après cette conversation, sur le pont du bateau des gardes-côtes, à l'approche de Vinyl Heaven, je regardais Lorraine à côté de moi. Ses cheveux, emportés par le vent, me caressaient le visage. Nous accostâmes au port de Vinyl Heaven. Les plaisanciers observèrent avec curiosité ce débarquement de police qui était probablement du jamais vu sur cette île. Une fois le convoi à terre, nous nous mîmes en route. 10 minutes plus tard, nous arrivions à la maison de Benjamin Bradbird. Les policiers se déployèrent rapidement pour la cerner, bloquant l'accès aux prés alentours et à l'océan. La voiture bleue était toujours garée là. Gal, Wood, Lansdane, Lorraine et moi nous postâmes devant la porte de la maison. Benjamin Bradbird, alerté par le bruit de moteur, nous ouvrit avant même que nous frappions.
« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il très surpris.
« Benjamin Bradbird, » lui annonça Gal, Wood, « vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Alaska Sanders. »
« Votre histoire est insensée !» s'insurgea Benjamin Bradbird, que nous interrogions dans son salon. « Pourquoi est-ce que j'aurais tué cet Alaska Sanders ?»
« À vous de nous le dire, » répliqua Gal, Wood.
« Combien de fois faudra-t-il vous répéter que je ne l'ai pas tué ?»
Lorraine lui présenta une photo d'Alaska.
« Regardez ce visage. Vous êtes sûr que ça ne vous dit rien ? Alaska a été élue Miss Nouvelle-Angleterre en 1998, concours fondé par votre mère et dont vous êtes membre du comité d'organisation. »
« Oui, oui, maintenant que je vois son visage, je me souviens d'elle. »
« Pourtant, » lui fit remarquer Lorraine, quand nous vous avons parlé d'elle l'autre jour dans votre cabinet, vous avez fait comme si ce nom ne vous évoquait rien.
Brad Bird serra les dents. La contrariété se lisait sur son visage.
« Allez-y, s'agaça Galwood. Crachez le morceau. Pourquoi avoir menti au sujet d'Alaska ?»«
Je n'ai pas menti. Sur le moment, je n'ai pas percuté. Je n'ai pas en tête tous les noms des lauréates au concours de Miss Nouvelle-Angleterre. »«
Vous mentez !» s'écria Galwood. « Vous mentez et ça se voit. Alors je vous répète ma question. Pourquoi avoir menti à propos d'Alaska ?»
Après une hésitation, Brad Bird baissa les yeux et finit par dire
« À cause d'Eleanor. »
« Vous aviez une liaison avec elle ?» dit Lorraine.
« Comment l'avez-vous découvert ?»
demanda Brad Bird.
« Grâce à son journal, » répondit Galloway. « Vous confirmez donc avoir été son amant ?»«
Oui, bon, » admit-il, « c'est vrai. Je n'aurais pas dû, j'étais son psy. » Mais elle était majeure, je n'ai rien fait d'illégal.
Elle s'est suicidée à cause de vous,
l'accabla Galwood en pointant sur lui un doigt accusateur.
Vous l'avez poussée à bout. Elle a consigné dans son journal la façon dont vous la traitiez. Comment avez-vous pu? Vous étiez son médecin, vous deviez la soigner, pas la pousser à se suicider.
C'est sa pathologie qui l'a poussée au suicide, plaida Brad Bird. Elle était fragile.
« Justement, vous saviez qu'elle était fragile, et vous avez passé l'été à la contrarier. »«
C'était un été compliqué. Ma vie se désagrégeait. J'étais en train de divorcer, en partie à cause d'Eleanor, car ma femme avait découvert notre liaison. Eleanor était amoureuse de moi, et je ne savais pas comment me dépêtrer de cette situation. »«
Parce que vous, vous n'étiez pas amoureux d'elle ?»«
Non. Je ne saurais même pas qualifier ce que nous étions, Eleanor et moi. » Elle était ma dernière patiente du mardi. J'ai terminé la journée avec elle. À cette heure tardive, mon assistante était déjà partie. Un soir du début 1998, j'ai eu un moment de faiblesse. Je sentais depuis un moment que j'attirais Eleanor et elle-même, comme vous le savez, était très séduisante. Je n'aurais pas dû, mais j'ai craqué. Ça s'est passé dans mon cabinet au milieu de la consultation. Je me suis promis de ne pas recommencer. Mais le mardi suivant, je n'ai pas pu résister à ma pulsion. Et de mardi en mardi, nous finissions notre séance de psychothérapie en faisant l'amour sur le canapé de mon cabinet. Ce n'est pas très glorieux. Quand est arrivé l'été, j'ai espéré que mon installation à Vinalhaven me permettrait de mettre un terme à notre relation. Mais elle a insisté pour venir ici à plusieurs reprises. Quand je suggérais de rompre, elle menaçait à demi-mot de me dénoncer à l'ordre des médecins. Elle tenait ma carrière entre ses mains. Alors j'ai continué à la fréquenter en espérant que mon comportement la découragerait. Et non seulement elle ne se décourageait pas, mais il lui en fallait toujours plus. Elle a fini par exiger de rejoindre le jury de Miss Nouvelle-Angleterre. Elle disait que ce serait bien pour sa carrière. J'ai intercédé auprès de ma mère qui a accepté. Je pensais qu'après ça, Eleanor me ficherait la paix. Mais non, elle insistait pour que nous devenions un vrai couple. Elle voulait que nous nous dévoilions au grand jour. J'essayais de temporiser en invoquant mon divorce en cours, mais j'étais conscient que cette excuse ne tiendrait pas longtemps. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir.
Je demandai à Benjamin Brad Bird. « Qu'avez-vous ressenti quand on vous a annoncé son suicide ?»«
Du soulagement. Un immense soulagement. Et beaucoup de culpabilité. Aujourd'hui encore, il ne s'écoule pas un jour sans que j'y pense. Sans que je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas cédé à mes stupides pulsions. » Ma vie serait bien différente. Je serais encore marié, j'aurais peut-être eu finalement des enfants.
Il y eut un silence. Puis Galwood reprit.
Alaska Sanders avait découvert votre liaison avec Eleanor. Elle savait que vous l'aviez poussée au suicide. Vous l'avez dit vous-même, ça aurait fait une sacrée tâche sur votre carrière. Plus qu'une tâche d'ailleurs, c'est la prison qui vous attend désormais, Benjamin. Vous avez profité de votre emprise sur Eleanor pour la séduire et vous en débarrasser ensuite. Alaska avait tout découvert, elle s'en est prise à vous, et vous l'avez tuée pour protéger votre petit secret et votre carrière minable.
« C'est une accusation sans fondement !»
s'écria Benjamin Brad Bird, qui se leva d'un geste si brusque que des policiers se précipitèrent sur lui pour le faire rasseoir. Galwood ne relâcha pas la pression.
« Comment Alaska a-t-elle fait le lien avec vous ?» Vous étiez son amant, c'est ça? C'est vous qu'elle a rejoint le soir du 2 avril 1999 pour un soi-disant dîner romantique au cours duquel vous l'avez tué.
Vous affabulez complètement, sergent. Il va sérieusement falloir songer à consulter. Vous n'avez pas la moindre preuve de ce que vous racontez. Votre scénario prêterait même à sourire si tout ceci n'était pas aussi pathétique. La plaisanterie a assez duré. J'exige de pouvoir appeler mon avocat. Je ne parlerai plus sans lui.
Vous aurez droit à votre avocat dans les locaux de la police d'État du Maine où nous allons vous ramener.
Vous ne me ramènerez nulle part, éructa Bradbird. Vous n'avez rien contre moi.
Vous allez en prison, Benjamin. Vous avez poussé une de vos patientes au suicide. Vous allez en prison de toute façon. Pour le reste, taisez-vous tant que vous voulez. Nous avons un faisceau d'indices concordants contre vous. Vous êtes un homme hautement intelligent, c'est pour cela que nous avons mis 11 ans à vous démasquer.
Benjamin Bradbird, sous bonne garde, assista à la fouille de sa maison depuis un fauteuil du salon. Lorsqu'il vit Gale Wood se saisir du tableau représentant ce coucher de soleil sur l'océan, il s'inquiéta.
« Vous n'allez pas me vider la maison, quand même ?»«
Ne vous en faites pas, docteur Bradbird, » lui dit Gale Wood. « Là où vous allez, vous n'en aurez plus besoin. »
Nous ne trouvâmes rien dans la maison. Pendant que nous étions occupés à l'intérieur, des policiers inspectaient la propriété. Ce sont eux qui découvrirent le puits, en partie recouvert de broussailles et d'herbes hautes. Ils nous prévinrent aussitôt. C'était un vieux puits en pierre, scellé par un lourd panneau de bois, sans doute placé là pour éviter les accidents. Gale Wood demanda qu'on y fasse venir Bradbird.
« Qu'est-ce que c'est ?» lui demanda Gale Wood.
« Vous le voyez bien, un ancien puits. On ne l'a jamais utilisé. »
« Vous avez d'autres surprises sur votre propriété ?»«
Je ne sais pas pourquoi vous vous acharnez, sergent. »
Bradbird avait un petit côté sûr de lui et agaçant. Le puits nous intriguait. Le panneau en bois fut retiré, la fosse était profonde. Un premier balayage à la lampe torche dévoila quelque chose au fond. Gale Wood considérait qu'il fallait aller inspecter ce qui s'y trouvait. Il demanda que l'on dépêche une équipe de pompiers disposant des équipements adéquats pour descendre. L'agitation autour du puits accapara l'attention générale. Bradbird, qui n'était pas menotté, profita d'un instant de flottement pour nous fausser compagnie. Il s'enfuit en direction de la forêt. Tous les policiers présents se lancèrent à sa poursuite, mais Bradbird courait étonnamment vite. En quelques enjambées, il passa la lisière de l'épaisse forêt, disparaissant dans un environnement qui lui était familier, alors que les policiers se retrouvaient en terrain inconnu. 2 heures s'étaient écoulées depuis que Bradbird s'était enfui. Malgré les recherches, il restait introuvable. Des équipes de garde-côtes et de la brigade maritime de la police d'État du Maine contrôlaient tous les bateaux qui quittaient Vinal Haven. Bradbird connaissait l'île comme sa poche, mais il ne pourrait pas aller très loin. Dans ce même laps de temps, les pompiers dépêchés pour explorer le puits étaient arrivés sur place. Un premier homme encordé fut descendu dans la fosse. Rapidement, la radio de ses collègues en surface se mit à crépiter.
Un corps !
S'écria le pompier depuis le fond du puits.
Il y a un corps complètement décomposé !
Le pompier demanda qu'on le remonte. Une fois à l'air libre, il ouvrit le poing pour nous montrer ce qu'il venait de récolter parmi les restes humains, une chaîne en or, sur laquelle étaient gravées les lettres d'un prénom, Eleanor. 5 jours après notre découverte à Vinal Haven, Gale Wood, Lorraine et moi présentions au chef Lansdane nos conclusions sur l'affaire Alaska Sanders.